Contrairement aux apparences, je suis plutôt un homme sauvage. Fleurs, papillons, arbres, îles. Ma vie est dans les marais, les vignes, les vagues. Qu'importe ici qui dit « je ». Écrire à la main, nager dans l'encre bleue, voir le liquide s'écouler sont des expériences fondamentales. Je vis à la limite d'une réserve d'oiseaux, mouettes rieuses, goélands, faucons, sternes, bécassos, canards colverts, hérons. Ah, être un oiseau! Dans les maisons, tous les matins, je laisse Richter jouer Hein, on pourrait l'écouter sans cesse. J'aime le futur immédiat, je ne crains pas la répétition, jeu enfantin, cercle qui ne va nulle part. On écrit toujours pour une voix, disait Beckett, pas de voix, pas de notes, ni de mots. Le bonheur est possible, je répète, le bonheur est possible. Philippe Soler, c'est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de deux livres, Agent secret, dont je viens de lire la première page, et Légende. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et ça sera Jane Birkin.
Quoi ? Notre amour feu ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te pendre. Star, laisser ou apprendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Sois au moins conscient que mon cœur peut se fendre. Sois, dit en passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr. que descendre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre.
Si je vous dis A comme amour, Philippe Solers, vous me répondez quoi ?
Si je
vous dis A comme amour.
Oui.
Votre définition, vous en avez une ?
De l'amour ? Ah. L'amour ne s'éprouve que de façon absolument clandestine, dans la mesure où c'est le mot probablement le plus souillé du monde par une mise en scène effrayante de laideur. Par conséquent, si on y croit à ce qui pourrait arriver dans ce mot souillé de façon permanente, il faut alors que ça se passe dans une clandestinité telle qu'elle est très difficile à imaginer, sauf pour un agent secret qui aurait compris qu'il faut absolument protéger quelque chose d'essentiel.
Vous y croyez encore à l'amour, vous ?
Plus que jamais, dans la mesure où je me suis organisé pour ça, et pour rien que ça. Donc, il y a trois mots qui définissent la position dans laquelle j'essaye d'évoluer et de durer. Ce sont les trois mots que prononçait André Breton, pour qui j'ai une immense admiration. C'est la liberté, l'amour, la poésie. Autrement dit, l'amour ne va pas sans poésie, et là encore, il faut se prémunir contre l'usage qui est fait sans arrêt de ce mot. Tout est poétique et rien ne l'est, etc. Donc tout ça, et la liberté, évidemment, va très mal. Je vous apprends pas grand-chose sur la planète, en gros, et dans le pays où nous sommes, vraiment, c'est titubant. Par conséquent, l'amour, la poésie et la liberté, oui. Voilà trois choses essentielles qu'il faut protéger à tout prix.
Si je vous dis le mot mère, vous me répondez quoi ? M-E-R-E.
M-E-R-E. Bien, écoutez, c'est la mienne dont la photo d'ailleurs est reproduite dans Agent Secret. C'est une femme étonnante, dans la mesure où, si vous regardez les photographies d'elle en 1938, par exemple, elle est étonnamment moderne pour l'époque. Hein, je suis assis sur ses genoux sur une plage en 1938, j'ai 2 ans, et elle n'a pas l'air du tout de cette époque. Elle était donc très, très, très libre, pleine d'humour, très drôle, très intelligente. Je lui dois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qu'il y a eu de plus intéressant dans le fait de la regarder, c'est qu'elle avait 2 yeux de différentes couleurs, c'est-à-dire l'un marron foncé, l'autre marron clair. Donc elle était double au point que dans ma tête d'enfant, je l'ai décrétée tout de suite magicienne, ce qu'elle était indubitablement, avec une ironie très cinglante pour tout ce qui était épanchement sentimental et pour tout ce qui était posture sociale. C'est-à-dire que très réfractaire, très libre, conduisant sa voiture très tôt, dans les rues de Bordeaux, ça faisait sensation, etc. Elle a toujours été extrêmement lucide et à l'écart. Voilà. Donc j'ai eu avec elle une relation passionnée, parfois très ombrageuse, et parfois très 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 difficile, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la femme de ma vie.
En tout cas, c'est peut-être elle la première agente secrète. C'est peut-être elle qui vous a appris à devenir vous-même agent secret, Philippe Solers.
Non, oui, sans doute, parce qu'il fallait que je me dissimule à son acquisition. Et par conséquent, j'ai pris très tôt l'habitude de me dissimuler par rapport à son regard perçant. Voilà. Elle m'a appris à être libre. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas opposée du tout à mon cheminement, parfois très chaotique.
Alors, ce qui est incroyable dans ce nouvel opus, intitulé « Agent secret », c'est que vous nous expliquez, Philippe Solers, que vous venez d'une histoire familiale un peu compliquée, puisque deux frères ont épousé deux sœurs. Qui plus est, les deux frères et les deux sœurs, les deux couples donc, habitaient côte à côte. Et vous nous expliquez dans cet ouvrage...
Deux maisons symétriques.
En plus. Et vous dites que tout avait une sorte d'atmosphère d'inceste, alors que ça n'en était pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Oh, écoutez, c'est un mot...
C'est très étrange.
C'est un mot d'une actualité brûlante.
Non, mais deux frères qui épousent deux sœurs et qui se mettent côte à côte dans des maisons identiques, c'est quand même pas banal.
Écoutez, l'atmosphère était un savoir-vivre très élaboré, et les deux femmes, j'avais donc deux mères et deux pères, d'une certaine façon, et j'ai beaucoup appris de ma tante qui avait l'avantage de m'aimer, quoi, enfin, plutôt. Donc, l'atmosphère inceste, tout de suite, les grands mots...
Ah, c'est non, vous qui l'écrivez.
Oui, je le dis exprès, parce que il faudrait savoir de quoi il s'agit. Et donc, l'incestuosité n'est pas forcément un inceste pratiqué comme tel. En tout cas, c'est une atmosphère très particulière, où tous les sens sont en éveil et dans une nature qui facilite ce genre de choses. Donc les jardins de Bordeaux, d'où je viens, facilitaient grandement le soleil, les chaises longues. C'était la bourgeoisie indubitablement très éclairée. Et les femmes avaient pour moi une sorte, en tout cas ma tante, Laure.
Elle porte un joli prénom.
Oui, Laure. Et donc, elle, voilà. Alors, je lui demandais, par exemple, j'avais des crises épouvantables d'asthme, etc. Enfin, bon. Et j'avais inventé un truc, à savoir que je ne pouvais respirer que si elle venait me caresser l'avant-bras. Donc, elle se prêtait volontiers à ce jeu, dont je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est quand même très ambigu. J'ai 11, 12 ans, 13 ans, peut-être même 14, et pas loin de 15. Oh mon Dieu, c'est l'âge où on doit absolument... Si c'est 15 moins le quart, ce n'est pas 15 et quart, selon la loi. Hein. Donc, voilà, elle arrivait dans une robe noire très saillante, elle était très jolie. Alors, je tendais mon bras, elle me caressait assez longtemps pour que la séance, quand même, se passe de commentaires.
Ne brûlez pas les étapes, Philippe Solers, parce que avant 14-15 ans, ou 15 ans et quart, ou 15 ans moins le quart, il y a eu l'âge de 7 ans. Et l'âge de 7 ans, c'est ce qu'on dit tous aux enfants, c'est l'âge de raison. Et le jour de vos 7 ans, vous êtes mis sur une chaise longue dans le jardin de votre maison familiale et vous avez attendu d'être
non,
raisonnable.
Il neigeait. Ah. Je suis désolé. L'âge de raison, pour moi, c'était donc... j'ai enlevé ma montre et je l'ai posée sur une balustrade enneigée Et j'ai attendu que midi, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être l'âge de raison qui va surgir. Et j'étais très sérieux, je croyais vraiment qu'il s'agissait d'un passage. Voilà. Donc c'est là, c'est à 7 ans, oui. Et l'âge de raison m'est arrivé sous une forme tout à fait étonnante, à savoir que j'ai vu la nature pour la première fois de ma vie lumineuse, et là, comme si Dieu était comme la nature en train de se révéler comme raison absolument intrinsèque. Donc, après, j'ai vu des philosophes, vous comprenez, bon. Mais, par exemple, Spinoza m'a donné des plus grandes joies de réflexion, et Dieu est comme la nature, et la nature est comme Dieu. Mon Dieu, comme c'est vrai, si on sait la voir, si on sait se faufiler en elle, être comme la nature, ce qui est la même chose que les relations sensuelles avec les corps humains.
Pourquoi êtes-vous si doué pour l'amour physique ?
Je ne suis pas à moi de
le
dire.
Et si précoce ?
Ce n'est pas à moi de le dire, mais je vous ferai remarquer qu'avec une vie très, très, à la fois très fixe sur certains choix et en même temps très déréglé en général, je suis tout à fait étonné de finir pratiquement ma vie sans aucune plainte. Et donc,
Attention, ça va peut-être arriver à la suite de cette émission.
Oui, mais alors il faudrait s'entendre, oui, bien sûr, mais enfin, c'est l'époque de la plainte, hein, c'est-à-dire où tout le monde a subi des viols, a été forcé de faire ceci, cela. Je n'ai jamais ressenti la moindre contrainte, ni n'ai jamais, à ma connaissance, infligé la moindre contrainte à personne. Ce qui n'est, au fond, pas si mal, c'est l'âge de raison même.
Dans cet ouvrage, vous parlez non pas seulement de cette première histoire d'amour que vous avez écrite et qui d'ailleurs a fait votre célébrité extrêmement jeune, repérée par François Mauriac, mais vous parlez d'une...
Et Aragon, pardon, excusez du peu.
Mais vous évoquez une période que vous avez rarement abordée. C'est la période où vous partez en Espagne. Et là, vous allez vivre dans le quartier chaud de Barcelone. Et vous allez vivre avec les prostituées, pas parmi les prostituées. Vous êtes complètement adoubé par ces prostituées. Que s'est-il passé durant cette période-là? Vous avez 15 ans, je crois. 15-16 ans.
Moins le quart.
Moins le quart.
Oui, enfin... Écoutez, le Barrio Chino, comme on l'appelait à l'époque, Barcelone était une ville absolument enchantée, qui ne dormait pas. À peine entre 5h30 et 6h du matin. Voilà. Le bar en question, qui était en effet fréquenté par des prostituées locales, s'appelait le Cosmos, je le revois. Elles étaient là, toutes plus appétissantes les unes que les autres, enfin, voilà, dans leurs robes colorées, et elles m'attiraient. Et je dois dire que je leur ai probablement plu, au point d'être gratifié parfois de séances gratuites, ce qui n'est pas si mal. Donc je dois beaucoup à ce dérèglement, comme liberté de physique, sexuelle, si vous voulez. Donc ça a commencé par une Espagnole qui était là chez nous et qui était une réfractaire du franquisme, qui bon. Et qui avait passé la frontière, qui survivait en étant employé de maison, et qui avait des convictions anarchistes très, très fortes. Donc, j'ai alors 15 ans, et elle en a 32. Donc, ça commence comme ça. Mes professeurs au lycée étaient très étonnés que tout à coup je dépasse tous les élèves en espagnol, forcément, y compris en argot sexuel. Donc c'est une femme absolument délicieuse, charmante, dont j'ai beaucoup appris. Donc ça commence comme ça, et après ça se déroule d'une autre façon.
Est-ce que ce que vous nommez le dérèglement sexuel et sensuel, Philippe Solers, vous a ouvert les portes de la compréhension de la littérature et de la philosophie ?
Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'est la littérature et la philosophie. Hélas, la philosophie est toujours plus ou moins chaste, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mauvaises philosophies en cours, notamment en ce moment où la morale surgit à chaque instant dans la façon de penser qui devient du journalisme moral. Donc il y a eu quelques philosophes dont le principal pour moi, pour lequel j'avais une sorte de dévotion qui venait en fin d'après-midi dans la petite revue dont je m'occupais à l'époque, c'est Georges Bataille. Bataille était pour moi une sorte de dieu sulfureux, grandiose. Il s'asseyait, il ne disait pratiquement rien. Et il était pour moi, avec ses livres étonnants, enfin, à commencer par l'expérience intérieure. Qu'est-ce que c'est que l'expérience intérieure ? C'est un livre que je découvre à l'âge de 18 ans, sur le sol d'une librairie qui était une sorte de... enfin, qui jetait les livres. L'expérience intérieure, j'ouvre, j'achète le livre, je le vole, et je l'ouvre et je vois que c'est quelqu'un qui me parle de Proust. Bataille, donc les livres érotiques de Bataille peuvent cacher la profondeur de sa pensée. C'est ce qui est en train de se passer sans arrêt, oui. Donc la philosophie, hélas, si elle est chaste, est nulle. La littérature, écoutez, là, Proust, ça suffit, n'est jamais chaste. Et l'art n'est jamais chaste, et si les chastes, ce n'est pas de l'art, comme disait Picasso, grand professionnel des bordels de Barcelone.
Vous tracez effectivement un portrait très touchant de Georges Bataille, qui a été très important au début de votre revue, et vous le restituez assez silencieux devant, dans votre bureau. Il est là avec vous, et nous, on va vous proposer d'écouter sa voix. Il va parler de l'érotisme, c'est une archive INA, non identifiée, ce qui lui va bien à Georges Bataille, le non identifié.
Très bien.
Il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble. Est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et il a peur de ce qui pourrait lui arriver et il va toujours assez loin pour avoir peur. Il ne se contente pas de ce dont les adultes vraiment sains se contentent. Il lui faut avoir peur. Il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, d'une façon insupportable, intolérable.
Alors nous venons d'entendre la voix de Georges Bataille, hélas, avec un fond musical sonore, mais ce qu'il dit sur l'érotisme et l'enfance est absolument incroyable. Souscrivez-vous à cette définition de l'érotisme, Philippe
Solers ?
Oui,
mais alors je vais le colorer, le propos, c'est-à-dire que c'est le vert paradis des amours enfantines, hein. C'est-à-dire que la peur joue un rôle, mais le fait que ce soit défendu, bien entendu, mais il y a quelque chose comme une ivresse de l'enfance qui est à la disposition de qui voudrait. Enfin, vous direz que là, c'est la définition du génie par Baudelaire. Baudelaire, le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Baudelaire est ma première lecture qui m'a donné le sentiment de l'érotisme poétique. Donc, les fleurs du bal, mon Dieu, quelle découverte!
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Philippe Solers. Ça sera l'air de Chérubin dans Les Noces, interprétée par Cecilia Bartoli.
Non so più cosa so, cosa faccio, pur ti fa ancora sola di ghiaccio. Ogni donna cangiar di color, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar.
Comment ne pas avoir des frissons en écoutant cet air interprété par Cecilia Bartoli? De la musique, vous parlez beaucoup à l'intérieur de vos deux livres, Légendes et Agents secrets. Et vous dites à un moment, Philippe Soler, ça m'a beaucoup frappé et touché. Vous dites que comme tout le monde, vous avez vos petits coups de blues, mais dès que vous mettez de la musique, hop, ça repart.
Oui, sans la musique d'Nietzsche, la vie serait une erreur. Et donc, malheureusement, la plupart des êtres humains sont soit dans un brouhaha, dans un bruit qui croit être de la musique, mais la musique doit s'écouter et s'écouter attentivement. Vous venez d'entendre un génie, et un génie qui est une amie en plus, donc voilà, merci pour moi, c'est Cecilia Bartoli. Vous écoutez la façon dont elle a ressuscité Vivaldi, par exemple, là elle est excellente dans Mozart aussi, bien sûr, et vous voyez que l'italien est une langue particulière. Par exemple, pour une chanteuse, et les anglo-saxons n'y arrivent pas, ou difficilement, c'est le R roulé. Avec ce air roulé, vous affilez votre écoute et vous êtes dans une splendeur musicale comme celle qui jaillit dans les grands musiciens classiques. Donc la musique doit être quelque chose que de continuellement à l'œuvre chez un écrivain. Pourquoi ? Parce qu'il travaille sa voix, et sans voix, comme le dit Beckett, il n'y a personne, il n'y a rien. Je reçois à peu près 10 ou 15 manuscrits par semaine, c'est très vite vu, mon assistant me trouve inhumain, je lis trois phrases, à peine un paragraphe, s'il n'y a pas de voix, c'est pas la peine, c'est comme une audition. Donc, en revanche, une voix, ça se sent tout de suite. Donc voilà, il faut savoir lire, c'est-à-dire écouter si celui qui a écrit l'a écrit en musique intérieure ou pas. Voilà, c'est tout. Et donc il y a beaucoup de livres inutiles, et même on peut dire que tous les livres publiés sont faits pour empêcher d'écouter de la musique.
Vous n'écrivez pas en écoutant de la musique, vous écoutez de la musique et vous écrivez.
Oui. Voilà, c'est tout. Et si j'ai réussi à écrire trois phrases de plus, surtout en ce moment, je suis comblé.
Pourquoi en ce moment ?
En ce moment, tout est fait pour vous dissuader de faire le moindre geste d'écriture, c'est évident. Donc c'est lourd. Et sans perspective. Pour qui ? Pourquoi ? À quoi bon ? Donc il faut surmonter ça, et en effet... Comme vous l'avez dit, je mets de la musique et immédiatement la joie revient.
Vous la vivez comment, cette période, Philippe Solers ?
Très bien, parce que je l'ai toujours vécu, d'une certaine façon. Donc le confinement est un art que j'ai pratiqué sans arrêt.
Volontairement ?
Oui, volontairement pour écrire. Oui, voilà. Il y a une phrase... que je cite de mon fils David, que j'aime beaucoup, et que je réclamais quand j'écrivais à l'île de Ré, par exemple, beaucoup de silence. Et donc, de temps en temps, il m'appelait, et voilà, je répondais. Alors il dit un jour à sa mère, « Papa est comme Dieu, il existe, mais il répond pas. » Voilà la meilleure définition de Dieu que je connaisse.
De David, vous parlez dans les deux ouvrages, aussi bien Agent Secret que Légende. De David, vous aviez parlé, il y a une vingtaine d'années, dans un livre qui s'intitulait, et qui s'intitule toujours, Carnet de nuit. Là, vous parlez de David, de son enfance, de son génie, de sa présence constante, de ses souffrances. On ne sait toujours pas de quoi a été, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, atteint David.
Non, ça reste mystérieux. Donc ça prend des formes qui pourraient passer pour des crises épileptiques, mais c'est pas ça. Donc c'est autre chose, il est habité par quelque chose qu'il surmonte avec un courage énorme, magnifique, et nous avons une relation absolument enchantée, parce que l'entendre dire « mon cher papa » a été une découverte considérable dans mon existence, voilà.
Et vous vivez avec lui encore aujourd'hui ?
Bien sûr. Il est beaucoup plus doué que moi pour l'ordinateur, et il a une écoute de la musique, notamment Mozart, qui est étrange. Il écoute sa musique et il tape des textes qu'il me montre et qu'il montre à sa mère, qui sont en général faits pour séduire sa mère, oui.
Pas vous. Vous êtes Dieu, donc vous n'avez pas besoin d'être séduit, au fond.
Non. Il y a une photo que j'ai appelée « L'amour supranormal », qui est un dîner, où on voit trois personnages, ça pourrait être d'un conventionnel, mais à mon avis c'est sublime, il y a le type qui est au centre, et il est embrassé par sa femme et son fils, voilà. Avec, évidemment, très en évidence, une bouteille d'un grand cru de Bordeaux, Margaux, Giscourt, si vous voulez, et c'est-à-dire ce qu'il faut pour crier avec Don Giovanni, oui, viva les féminés, c'est le jour de la liberté des droits des femmes, donc je vais chanter en honneur de leurs droits.
C'est tous les jours, évidemment, la journée des femmes.
Viva le buon vino, sosse ne gloria l'umanità. Sosse gloria l'humanita. Vive les femmes, vive le bon vin, soutien et gloire de l'humanité. Voilà, au moins ça aura été dit.
Vous êtes quelqu'un de très pudique, contrairement aux apparences, Philippe Solers, et les pages consacrées à votre fils David sont bouleversantes. Vous nous dites, mais presque en catimini, que vous connaissez l'état des hôpitaux, que vous connaissez les visites aux hôpitaux, que vous connaissez les attentes dans les couloirs des hôpitaux, que vous connaissez aussi le manque de personnel dans les hôpitaux, que vous savez à quel point le personnel médical essaye d'apporter tout ce qu'il peut aux personnes souffrantes, mais qui n'en peut mais.
Oui, mais vous avez bien raison, parce que j'ai écrit un texte là-dessus. J'ai une admiration sans borne pour les infirmières. Les infirmières, hein, je dis bien, le personnel médical, c'est vague. Mais les infirmières, jour et nuit, et quand j'étais malade assez souvent et assez gravement, parfois, j'ai toujours eu la plus grande admiration stupéfaite devant ce soin donné aux malades et aux mourants, bien sûr.
Vous avez un bureau, vous avez un appartement familial où vous vivez avec votre épouse Julia Kristeva, qui est la mère aussi de David. Et ce bureau et cet appartement ne sont pas très loin géographiquement, mais ils sont curieusement placés près d'un grand hôpital parisien. Et votre livre, Légende, commence par le bruit des ambulances, le bruit des pompiers qui est permanent, qui est obsédant, qui est comme une sorte de cadence à l'intérieur de votre quotidien. Et vous dites en ouverture, comme une ouverture d'opéra, que vous êtes peut-être un urgentiste du présent. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Philippe Solers?
Je ressens ça de façon très violente. Les sirènes, les voitures qui arrivent, etc. Aux urgences, voilà. Ce qui veut dire que quelqu'un est dans un état quand même qui va permettre ou pas, d'ailleurs, parce que les hôpitaux sont très engorgés, ils vont très mal, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez de personnel, tout est mauvais, alors que le système de santé français est un des plus, le plus admirable du monde, hein, il faut le dire, avec un dévouement des gens étonnants. Donc là, je me sens en état d'urgence moi-même, c'est-à-dire que si j'écris, c'est parce que c'est urgent d'écrire. Je suis un urgentiste des mots et un urgentiste de la parole ou de l'écriture. Voilà comment je me vis. C'est-à-dire que c'est de plus en plus intéressant parce que, voyez-vous, ce qui est en train d'arriver à l'espace et au temps devrait pousser les écrivains à savoir ce que c'est que de vivre dans un monde quantique, hein, voilà, c'est-à-dire l'espace-temps. L'espace-temps, c'est quelque chose qui est un espace à quatre dimensions où les points sont des événements. Donc vous vivez des événements si vous avez vraiment la perception de cet espace-temps-là. C'est-à-dire quoi? L'espace n'est plus ce qu'il était. Hein, puisqu'il se rétrécit à vue d'œil et planétairement, et que vous êtes privé d'espace, l'espace se rétrécit. Le temps, lui, au contraire, se dilate. Vous avez très peu de temps, mais le passé devient alors miraculeux. Voilà ce qui est en train d'arriver. Et évidemment, dans une catastrophe pandémique mondiale, la mondialisation mène quand même à ça.
Vous aimez vieillir ?
Oui. Heureusement qu'il faut vieillir, voilà, et oui. Et le vieillir ne me paraît pas vraiment intéressant. Enfin, je sais que vous avez écrit là-dessus, j'ai écouté votre façon de parler du vieillir, et non pas du vieillissement. Vieillir est un acte, c'est-à-dire que c'est une façon de rajeunir. Et de retrouver sa jeunesse, tout à fait imprévue. Donc,
c'est ce que vous ressentez.
Ah oui, bien sûr, je rajeunis tous les jours, absolument. Et parce que j'ai conscience de la chance que j'ai eue de vivre comme j'ai vécu, et je m'en félicite.
Mais vous ne parlez pas au passé, là, vous parlez aussi de l'avenir.
Oui, l'avenir, c'est le passé. Vous savez, pour certains, c'est le miracle d'avoir vécu avec justesse et opportunité.
Vous ne regrettez rien, comme dans la chanson.
Oh, non.
Rien de rien.
Oh non, 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 non. Ni remords, ni regrets, rien.
Mais je crois que c'est parce que, et vous nous l'expliquez dans un des deux livres, c'est parce que vous n'avez pas peur de votre mort. Je ne dis pas de la mort, vous avez peut-être peur de la mort, mais en tout cas, vous n'avez pas peur de votre mort.
La mort est toujours la mort de quelqu'un. On brode là-dessus comme si c'était être ensemble dans la mort, mais pas du tout. C'est toujours la mort de quelqu'un, et là, on ne sait pas grand-chose. Ce qui est certain, c'est que vivre la mort, c'est vraiment la chose la plus essentielle de la vie. Donc je vis ma mort de façon assez tranquille. Tranquille.
Tranquille, patiente, déterminée, volontariste. Parce que
volontariste,
vous avez...
non.
Bah si, c'est... vous avez préparé votre tombeau.
Ah oui,
et votre
oui.
Épitaphe.
Oui, mais ça c'est une sorte de... Oui. Ça c'est un pied de nez à la mort, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est au cimetière d'Arsoré, qui est un village où sont enterrés des aviateurs qui sont venus mourir là pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont enterrés avec leur nom, le carré britannique est très bien tenu, ce sont des aviateurs, ils sont, il y a leur nom, ils sont pilotes, ils sont mitrailleurs, ils sont tous australiens, néo-zélandais, etc.
Et là, vous avez choisi vos compagnons d'éternité, quoi.
Voilà, les voilà là. Et comme je suis né dans une famille qui était très anglophile, ce qui m'a évité d'avoir la culpabilité vichiste rampante, de même que comme j'ai été absolument contre la guerre d'Algérie, ça m'évite d'avoir une culpabilité néocoloniale, etc. Voilà, pas de culpabilité, c'est très important hein, pour vivre mieux la mort qu'on souhaite. Et donc là, j'ai simplement fait sculpter dans la pierre une rose, il y a une croix, une rose. Ça, c'est pour saluer Hegel, qui est pour moi le penseur le plus essentiel de l'histoire de l'humanité, le seul à avoir compris la Révolution française, en fait. Et c'est la formule, c'est la rose de la raison dans la croix du présent. Rose-croix, qui est aussi un signal ésotérique, facile à entendre. La rose de la raison dans la croix du présent. La croix du présent, c'est une souffrance, mais la rose de la raison est là.
Vous savez faire le con, comme vous dites, à l'intérieur d'un des deux ouvrages, Philippe Solers, et vous avez admirablement réussi à faire le con lors de votre appel pour la guerre d'Algérie. Vous deviez aller faire la guerre.
Non,
et
j'ai,
là...
pas fait j'ai pas fait du tout le con, j'ai fait le fou. C'est pourquoi faire le con, ça n'aurait pas marché. En revanche, quand vous êtes devant un psychiatre de l'armée, capitaine, et qui vous demande de dessiner un corps d'homme et un corps de femme, et que vous le faites très méticuleusement devant lui, qui vous regarde, et que vous dessinez de façon très méticuleuse les sexes de l'homme et de la femme, et que vous ne leur mettez pas de bras, là, vous enfoncez un coin dans l'analyse psychiatrique militaire. Donc j'ai été réformé numéro 2 sans pension, pour terrain schizoïde aigu, je peux vous montrer ce papier qui m'a valu la liberté. J'ai été sans Malraux d'ailleurs, je ne serais jamais sorti de cet hôpital militaire situé dans l'est de la France, mais région maudite à jamais pour moi. Et j'ai remercié Malraux, qui m'a tiré d'affaire, qui m'a fait réformer quoi. Je l'ai remercié, il m'a renvoyé une carte de deuil, ses fils étaient morts dans un accident de voiture, enfin bon. Et il me dit, c'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir pu, au moins une fois, rendre l'univers moins bête. Écoutez, des ministres de la culture comme ça, c'est vraiment pas banal. Alors, où en sommes-nous? Ben, nulle part. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir réussi au moins une fois à rendre l'univers moins bête. là, chapeau quand même.
À un moment, vous citez Nietzsche, vous le citez à plusieurs reprises, et dans les deux ouvrages, il n'y a pas Hegel, il y a beaucoup de Nietzsche. Et chez Nietzsche, il y a la philosophie de l'éternel retour. Et vous nous posez une question qui s'adresse à nous toutes et à nous tous, et qui est assez simple en apparence. Si vous aviez la possibilité de revivre votre vie, est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous souhaiteriez le refaire?
Oui, 3 fois oui, 10 fois oui, 1000 fois oui, et 10 000 fois oui. Donc je suis absolument persuadé de la possibilité de l'éternel retour. D'ailleurs, Nietzsche est très... Enfin, on dit que c'est l'idée qu'il a saisie, qu'il a rendu fou, mais enfin, moi je ne crois rien du tout. Au contraire, ça a été l'illumination fondamentale. Et quand il dit que si cette notion l'éternel retour sur laquelle on peut écrire des volumes, est cru vrai, alors tout est transformé. Donc il faudrait se mettre, ce que j'ai fait, dans la position de croire vrai l'éternel retour. Et je crois vrai que c'est vrai. Donc ça transforme tout. La moindre occasion, le moindre geste, le moindre instant est porté à une dimension invraisemblable. Il faut vivre avec l'idée de l'éternel retour. Si vous dites ça à quelqu'un, il ne va pas vouloir que de l'éternel retour, parce que ça serait l'éternel retour de souffrance, de gêne, de malaise, de torture. Ce n'est pas possible. Eh bien, si. Il faut donc arriver à une conception de la sérénité et de la jouissance qui veut l'éternel retour. J'y crois fondamentalement.
L'approbation de la vie.
Jusque dans la mort.
Jusque dans la mort. À un moment, vous dites aussi, Philippe Solers, que nous changeons de civilisation, que nous sommes en train de vivre, et vous le vivez dans ce présent, qui est en train de changer de nature. Pas d'intensité, mais de nature. Et que les règles avec lesquelles vous avez commencé à vivre dans le monde ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Êtes-vous certain que nous basculons dans une autre civilisation, ou pour reprendre les termes d'un philosophe japonais, que nous sommes en fin de civilisation?
Non, nous sommes en mutation de civilisation, ce qui est très difficile à comprendre et à percevoir. Si je vous dis que je suis étonné d'avoir pu vivre assez longtemps pour qu'une de mes hypothèses historiques devienne réalité, je suis ahuri. Quand je commençais à m'intéresser à la Chine, il n'y avait aucune raison que la Chine devienne la première puissance mondiale. Vous allez vous récrier tout de suite les droits de l'homme, les Ouïghours, etc., Hong Kong, tout ça. Mais c'était absolument impensable. Impensable. Et donc, vous voyez que l'histoire existe, il n'y a pas de fin de l'histoire, et c'est les Chinois, et qu'on en pense ce qu'on veut, mais c'est une civilisation extrêmement profonde, et qui évite la destruction métaphysique qui a lieu en Occident, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout les mêmes concepts religieux, névrotiques et autres, n'est-ce pas ? Les femmes chinoises, il faut les connaître un peu quand même pour voir à quel point c'est différent. Et je suis contre le fait de nier cette différence. Je sais que c'est à la mode, comment ils sont comme nous, etc. C'est pas vrai. Donc c'est une différence qu'il faut étudier. Je me sens de plus en plus chinois. Et donc, même si je n'ai fait que 2 ou 3 ans de chinois, uniquement pour savoir comment poser la voix et savoir lire 1000 caractères, mais je pense et j'agis autant que possible en chinois, avec la fluidité qui convient, c'est-à-dire une conception du monde qui repose sur le souffle et le fluide. Et là, il suffit de regarder attentivement une calligraphie pour savoir de quoi il s'agit, parce que vous n'avez pas droit au repentir. C'est un sport. La vie est un sport de très haut niveau.
Comment ça se dit, Philippe Solers, en chinois?
Wu Chizhong, Kuzhen.
Merci Philippe Sellers, j'espère qu'on se retrouvera si vous acceptez qu'on continue cette conversation.
Oh mais oui, avec joie.
C'est avec les cours d'eau de Pomme que nous allons nous quitter. Merci infiniment Philippe Sellers. Je rappelle que vos deux livres s'intitulent l'un « Agent secret » et qu'il vient d'être publié aux éditions Mercure de France, l'autre « Légende » aux éditions Gallimard. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Louise Tempero qui ont préparé cette émission. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, l'a réalisé.